vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin.
Épisode numéro 114. Toutes les Ukrainiennes sont alsaciennes. Svitlana Spendlej. Ah, chers amis, bonjour. Alors, il y a un mot émouvant, charmant, évident, qui rime avec alsacianité, c'est solidarité. Et lorsque le 24 février 2022, en Alsace, nous avons appris qu'un petit peu comme en septembre 1939, chez nous, un pays en envahissait un autre, une annexion, comme en Alsace, nous avons tout de suite pensé, alors comme on dit en alsacien, on a pensé à aider. Arme Leute, les pauvres gens, c'est schlimmt, c'est terrible. Et oui, être envahi, c'est terrible. Et tout de suite, comme dans beaucoup de régions, on a dit « mais venez, on va vous aider ». On ne savait pas pendant combien de temps, mais on a dit « allez, venez, venez ». Strasbourg, ce n'est pas si loin de Kiev, ni de Chisinau. Et il y avait déjà des Ukrainiens et des Moldaves qui y vivaient, qui y travaillaient. Donc, vous, Svitlana Spendlej, bonjour Svitlana Spendlej.
Bonjour.
Alors, vous êtes présidente de l'association Women for Ukraine, qui permet à des réfugiés de se réunir, on va en parler, pour faire une sorte de bilan après quelques 3 années. Mais d'abord, faisons connaissance. Vous êtes moldave de famille ukrainienne, donc moldave de famille ukrainienne, et votre nom, c'est un nom absolument alsacien, Spendlej. Alors, si j'ai le droit de poser la question, votre nom, Spendlej, c'est par amour ?
C'est par amour, c'est par une chance que la vie m'a offerte d'être ici en Alsace et de rencontrer quelqu'un de merveilleux qui est mon mari, qui s'appelle Monsieur Pascal Spendlej et qui est un concentré d'Alsacitude, comme tu dis. Parce que son père, il est du Haut-Rhin et sa mère est du Bas-Rhin, donc alsacien que ça, on n'en trouve pas.
Et alors, ils arrivent à faire des compromis entre le Bas-Rhin et le Haut-Rhin,
oui. Ah oui, oui, oui. Ils ont vécu toute une vie ensemble et il y a quelques semaines, ils ont fêté leur 50e anniversaire du mariage. Alors, t'imagines, c'est quelque chose. Hein.
Formidable.
C'est pas donné à tout le monde. Et mon prénom,
oui.
à la base, c'était pas Svitlana, c'est Svetlana.
Mais
en
2000... C'est la question que j'allais vous poser, vous avez changé le I en E ?
Non, le E en I.
Le E en I, oui, c'est ça.
Voilà,
le E,
tout à fait.
Vous avez fait, c'est la disparition du E, comme dirait Georges Perec.
Voilà, exactement,
oui.
Tout à fait.
Pourquoi ? Parce que Svetlana, qui était votre prénom au départ...
C'est la version russe du prénom Svitlana, qui est la version ukrainienne. Donc j'ai voulu effacer toute trace russe de mon prénom et de mon identité. Donc, je suis Svitlana dans tous mes papiers.
Mais est-ce qu'on peut,
et dans mon âme.
Est-ce qu'on peut abandonner ses racines, son identité comme cela ?
Mais je n'ai jamais eu des racines et d'identité russe. C'est juste mon prénom qui était d'origine russe, c'est tout.
Et pourquoi ? Parce que vos parents, peut-être...
Parce que mes parents, ils ont... considérer ça comme un très bon prénom et ça l'est, parce que ça se traduit comme la fille de la lumière.
Ben oui.
Mais c'est la même chose si on l'écrit à un Ukrainien.
Moi j'ai un prénom italien, Ambrogio di Milano, et je suis censé manger du miel puisque c'était le saint patron des apiculteurs.
Voilà, tout à fait.
Mais bon, ça fait Ambroise, en alsacien, Framboise, net, voilà, et tout. Bon, donc, vous êtes présidente de cette association,
Women for Ukraine,
mais vous étiez déjà là avant l'invasion de l'Ukraine en Alsace, parce que...
J'étais bien avant ça en Alsace, mais j'étais bien avant ça en France, tout court, puisque je suis arrivée ici en 2000. Donc, ça fait un quart de siècle que je suis en France.
Vous étiez étudiante.
Voilà, je suis venue faire mes études à Sciences Po à Grenoble. Et puis,
ça a bien marché.
Sur ça, oui, oui, très très bien.
Vous parliez déjà bien le français ?
Je parle le français depuis que j'ai 6 ans. C'est grâce à mon père que je l'ai appris, comme bien d'autres langues, parce que c'était un polyglotte qui a appris toutes ces langues par la radio, d'ailleurs, en écoutant BBC, Deutsche Welle et ainsi de suite.
Et France Inter, donc.
Exactement, aussi avec des brouillages pas possibles, puisque c'était quand même, n'oublions pas, les temps soviétiques. Donc,
c'était interdit d'écouter les radios.
C'était pas que c'était interdit, c'était pas, presque pas possible. Enfin,
Est-ce que dans votre toute jeune enfance, vous avez entendu à la radio les Beatles, les Rolling Stones?
Non.
Non.
Non, non, on n'entendait pas ça.
Vous n'aviez pas Radio Carolina?
Non, 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 malheureusement, non. Non, quand on a eu l'accès vraiment à la culture occidentale, c'était en 89.
Après la chute du mur, oui.
Voilà, exactement. Et tout particulièrement après 91, après la chute de l'URSS. Mais je me rappelle comme si c'était hier le premier clip que j'ai vu à la télé. C'était un clip de Blondie. Et c'était tellement comme
nouveau.
Quelque chose d'inédit, d'inconnu. Oui.
Alors, vous ne refoulez pas quand même votre passé. Parlez-moi des clips, alors peut-être pas des clips, autre chose, mais des souvenirs d'avant 91.
Oh là là, oh, j'en ai tellement. J'ai une bonne mémoire.
Il y a des films,
J'ai une telle mémoire qu'on pourrait passer notre émission.
Citez-moi. Est-ce que, par exemple, vous avez lu Guerre et paix de Tolstoï en russe?
Ah oui, 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 oui. Et c'est aussi un bon livre pour apprendre le français, mais le français, si vous voulez.
Ah, vous avez lu la traduction en français?
Non, parce que presque un quart du Guerre et paix, est
oui.
en français.
Ah, dans l'original
dire. Voilà, exactement.
Dans la version russe, c'est en français.
Oui, puisque la haute noblesse russe, l'aristocratie russe,
parlait le français,
puisque le français, c'était la langue de la diplomatie.
Est-ce que vous avez lu Tourgueniev, par exemple, qui était grand copain de Flaubert?
Bien sûr, j'ai lu Tourgueniev. Enfin, je suis une connaisseuse de littérature russe, mais aussi occidentale, puisque j'ai fait 5 ans d'études de littérature comparée à Moldavie. Avant que j'arrive en France.
Et avant Sciences Po, Grenoble, où vous êtes arrivé majeur de promotion, peut-être?
En Moldavie, oui, j'ai fini mes 5 ans d'études, de 92 à 97, avec une moyenne générale de 9,71 sur 10, pour les 5 ans.
Pas mal.
C'est pas même mal. Très bien. Oui, puis ça n'a été jamais un problème pour moi, les études. J'ai toujours bien réussi.
Parce que vous aviez en tête l'Occident, entre guillemets. Pourquoi? Alors, est-ce que vous êtes simplement super douée ou est-ce que vous êtes très travailleuse? Est-ce que vous êtes laborieuse et que vous vous dites, si j'ai des bonnes notes, je pourrais sortir de ma, entre guillemets, condition?
Je travaille beaucoup. J'ai été apprise à travailler beaucoup par ma famille, par mon père. Puisqu'il nous disait que c'est que le travail qui nous donne un ticket d'entrée dans la société soviétique, puisque mon père, il est prêtre. Donc l'Église était séparée de l'État et de la société. Donc nous, on était, les enfants, on était plus ou moins obligés de faire la part des choses entre les deux, entre la société et entre la maison, par exemple. À l'école soviétique, qui était l'unique, il n'y avait pas d'école privée. Donc, tout le monde avait l'obligation d'envoyer ses enfants à l'école soviétique. Donc, mes parents aussi. Donc,
mais ils faisaient en plus autre chose. Voilà, c'est ça.
Oui, bien sûr. Donc, j'allais à l'école où j'étais très travailleuse et je travaillais beaucoup. Mais en plus de ça, j'étais pionnière très engagée. J'étais chef de classe. J'étais chef des pionniers, ça veut dire une fois par an, pendant nos camps de pionniers.
Les jamborées, je crois que ça s'appelle.
On faisait des concours de chant patriotique avec les marches, avec les drapeaux et tout ça. Enfin, c'était n'importe quoi. Et quand j'arrivais à la maison, j'étais obligée, mieux valait que mon père et ma mère ne voient pas tous ces cravates, insignes et autres choses soviétiques.
Oui, donc c'était un double jeu que vous aviez.
C'était une double vie, oui, carrément.
Carrément. Et alors, vous parlez de votre père, votre maman, elle faisait quoi? Elle était à la maison avec, vous avez 10 frères et sœurs ou...
J'ai un frère et 3 sœurs, donc mm-hmm. nous sommes 5. Mais mon frère est décédé bien avant que je sois née, donc je ne l'ai jamais connu. Et c'est aussi sa mort qui a conditionné un changement dans ma famille assez radical, puisque quand il était encore en vie, ils étaient 2 enfants. Enfin, c'était une famille soviétique normale. Enfin, ma mère, elle travaillait à l'école.
Donc, classique, quoi.
Voilà, classique. Tout
et votre
fait,
maman, là, donc, elle était enseignante.
Voilà, exactement. Et puis, mon père, il était menuisier dans le kolkhoz. Rien de tel ne
menuisier
prévoyait.
Et prêtre.
Non, il était menuisier. Non, il était menuisier tout court. Et après, bon, mon frère, il est décédé. Ma mère, elle a eu une rupture d'anévrisme qui l'a handicapée pendant 4 ans. Elle a été bloquée du côté gauche de son corps. Et mon père, le 3e jour, il est tombé quand il travaillait, quand il mettait la toiture, et il s'est abîmé la main droite. Il a perdu un seul instant, si vous voulez, son fils, sa famille, son métier, et puis voilà. Il ne le vivait pas très bien du tout. Donc, quelques temps après, il est allé à Saint-Pétersbourg. Enfin, dans ce temps-là, c'était Leningrad. Il a fait 5 ans d'études pour devenir prêtre, et puis il est revenu à Moldavie.
Donc, face à l'adversité, c'est la spiritualité, disons, qui a mené votre père et qui ensuite vous a insufflé cette envie de travailler. Je reviens donc que vous avez fait ensuite Sciences Po à Grenoble. Ça a bien marché.
Et après, j'ai fait une licence.
Vous êtes venu à Strasbourg.
Je suis venu à Strasbourg quand j'étais en deuxième année de doctorat pour intégrer l'ENA. Et j'ai fait l'ENA et je fais partie de la promotion Émile Zola qui le 14 juin prochain fêtera ses 15 ans de promotion.
Voilà, donc les auditeurs ont bien entendu, vous avez dit ça de façon très modeste, vous avez fait l'ENA et vous avez réussi. C'est pas Léon, c'est l'ENA. C'est L'ENA, Léon, c'est l'ENA de Bruckner, hein, je crois, c'est ça.
Voilà, tout à fait. Voilà,
super pièce de théâtre d'ailleurs.
Hein, oui, c'est, que j'adore.
J'adorais ça. J'ai joué dedans quand j'étais au lycée, donc c'est pour ça... C'est une petite réminiscence et tout. Donc, vous faites l'ENA, c'est quand même assez extraordinaire.
Oui, c'est assez extraordinaire aussi par le
tour extérieur, c'est ça ou...
J'ai fait l'ENA avec les Français, c'est le cycle international long. Ça veut dire qu'en même temps que les Français, il y a des internationaux, des élèves qui viennent de tout...
Oui.
Enfin, des pays extérieurs et puis qui font le même cycle que
voilà,
les
donc Emmanuel Macron était dans votre...
J'ai pas eu cette chance d'être dans la même promotion. Non. Oui, je crois qu'il était même avant, je crois.
Ah oui, d'accord.
Oui.
Bon, voilà.
Mais oui, c'est assez inédit parce que je suis aussi la seule Moldave qui a fait l'ENA, le cycle long.
Oui, puisque vous avez la nationalité moldave. C'est votre maman qui était ukrainienne, hein, c'est ça?
Non, c'est par mon père que je suis... Enfin, c'est ma grand-mère qui était ukrainienne.
C'est comme en Alsace, où on est un peu français, un peu allemand, un peu alsacien et un peu polonais.
Voilà, exactement. Mais qu'est-ce que je voulais dire?
Donc, vous avez fait l'ENA. Vous avez peut-être rencontré entre-temps ou pendant ce temps-là M. Spengler.
Oui, oh, je l'ai connu juste un jour avant que je commence l'ENA.
Ah bon?
Parce que j'ai, à vrai dire, pour...
Ça vous apporte des chances.
Pour vous dire tout, en fait, j'ai passé le concours. Aussi pour ça, enfin, quelque part, parce que quand j'étais en doctorat, j'étais célibataire et je me suis dit, ça ne se fait pas. Enfin, j'arrivais pas à me trouver un copain qui valait la peine de rester avec. Alors, je me suis dit que voilà, ça peut être un projet assez viable que d'intégrer l'ENA et de me trouver quelqu'un là-bas. Mais M. Spengler, il aura grillé la politesse.
Ah voilà, c'est formidable comme histoire, comme vocation. J'ai fait l'ENA pour trouver
un mec.
un mec, et puis finalement, voilà. Et tout. Voilà. Bah, c'est, oui, c'est formidable. C'est comme ça que ça arrive. Hein, ouais. Voilà. Et alors, bon. Et alors, après l'ENA, bon, ben, vous êtes devenue française, je suppose.
Ah, j'ai acquis la nationalité française pendant que j'étais à l'ENA, puisque pendant le stage territoire, j'étais à la préfecture des Vosges. Et imaginez-vous que j'arrive à la préfecture des Vosges et le premier jour que j'étais, je reçois un coup de fil de quelqu'un qui n'était pas content du tout. Que j'étais là et que je ne l'ai pas averti de ma présence. Et moi, franchement, tout simplement, je lui ai dit, mais vous êtes qui, monsieur? Enfin... Ah oui, pardon, je ne me suis pas présentée. Je suis Christian Poncelet et je suis juste à côté au palais du département.
Oui.
Puisque c'était carrément presque le même bâtiment que la préfecture. Et je vous invite demain avec monsieur le préfet pour manger à midi avec moi. Bon, bah oui, merci, avec plaisir. Donc, Christian Poncelet, pour ceux qui ne le connaissent pas, dans ce temps-là, c'était encore le président du Sénat aussi et le président du département des Vosges.
Le président de tout.
À vie.
Oui. Et alors, comme il n'y a jamais de hasard...
en mangeant, il me dit, « Miss Svitlana, t'es française, non ?» Je dis, « Non, comment ? Non, pas du tout. Je ne sais même pas comment faire. » « Oh, bien sûr. » Tu rentres dans tes services, tu prends ton dossier, tu te le remplis, et puis monsieur le préfet et moi, on vous fait une lettre de recommandation. Ah, monsieur le préfet, ouais. Et voilà, à la fin de mon stage, j'étais française.
Ah ben voilà, alors ça, c'est piston mode d'emploi, c'est pas mal.
Donc, non, mais enfin, c'était mérité parce que je travaillais beaucoup. Hein.
Et puis voilà, oui, donc, c'est une jolie histoire, là. C'est pas un conte de fées, c'est une histoire vraie, mais c'est très bien. Alors maintenant...
Non, mais je veux dire, j'ai mérité ma nationalité. C'était pas juste une histoire de piston. Hein.
Nous ne parlons pas de mérite, nous ne sommes pas dans une morale et tout. J'aimerais quand même qu'on revienne un petit peu aux activités maintenant de Women for Ukraine. Donc, il y a 3 ans, catastrophe, l'Ukraine est envahie et donc vous avez créé cette association. Comment ça s'est passé?
Le 24 février 2022, quand tout le monde a appris et que moi j'ai appris le déclenchement de cette guerre fratricide, je peux même pas me dire que c'est fratricide parce que les Ukrainiens ne sont pas les frères des Russes, mais c'était un choc tellement fort pour moi que je me suis dit il faut que je fasse quelque chose. Donc j'ai quand même dû faire face à ce choc. Pendant quelques heures j'étais comme un peu bloquée, mais dès le lendemain, avec l'association Alsace-Moldavie, où j'étais vice-présidente, on a organisé des collectes d'aide humanitaire, on est allé à Moldavie, on a organisé des cuisines mobiles pour accompagner les réfugiés ukrainiens qui arrivaient par le sud du côté d'Odessa. Et donc, on les accompagnait à Kitchener, et à Kitchener, avec l'ambassade de France à Moldavie, on les faisait venir en France, et ici en France, Alsace-Moldavie, moi, et puis bien d'autres personnes qui faisaient pas partie d'aucune association, mais qui voulaient juste aider, on accompagnait ces personnes, et puis on les faisait passer à la bourse.
Et cette solidarité, vous l'avez transposée en Alsace, à Strasbourg.
Voilà, exactement.
Svitlana avec... Spendley, je répète votre nom,
voilà,
ceux
exactement.
Qui prennent l'émission en cours de route. Et donc.
Et tous ceux qui. Enfin, certaines réfugiées qui faisaient partie de ce petit groupe qui voltigeait dans les projets d'Alsace-Moldavie, on s'est coagulé dans une association qui s'appelle Women for Ukraine, les femmes pour l'Ukraine, et qui, à part moi, enfin, qui je suis moldave et française, mais les autres sont des réfugiées ukrainiennes. Et qui viennent toutes de toutes parts d'Ukraine et avec lesquelles on a pu vraiment développer une très très belle association. D'ailleurs, juste pour information, cette année, la LICRA nous a accordé leur prix annuel.
Le grand prix annuel. Voilà
pour notre.
Vous êtes membre aussi de la LICRA.
Voilà, et notre secrétaire général aussi et plusieurs membres de l'association également. Puisque ça fait partie aussi de nos valeurs.
Alors, vos valeurs, vous habitez dans un petit village du Korsberg, enfin, pas loin, vous avez des enfants, est-ce que vous leur parlez en alsacien?
Ah, j'aimerais bien leur parler en alsacien, mais je connais...
Leur papa, peut-être, leur parle en alsacien.
Surtout les grands-parents, un tout petit peu. Mais non, on parle français, nos enfants.
Oui.
Mais aussi, je parle roumain avec eux, et puis...
Le roumain, oui.
Parce que c'est ma langue natale.
À votre langue, comme on dit, vernaculaire, c'est le roumain. Donc c'est en Moldavie, vous parliez le roumain. Il y a une langue moldave aussi, quand même.
En fait, c'est les soviétiques qui appelaient le roumain moldave. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont transcrit le roumain avec du cyrillique et ils l'ont appelé moldave. Voilà.
Ah d'accord. Et alors, vous parlez le russe aussi, parce que c'était obligatoire.
Bien sûr, moi, je parle cette langue. Mais le russe, oui, bien sûr aussi.
Dites-nous ça pour nous épater.
Bah, je parle le français, l'anglais, l'italien, l'allemand,
le russe.
Le roumain qui est ma langue natale, le russe, l'ukrainien.
Voilà. Et vous êtes en train d'apprendre le chinois?
Non.
Là,
non. Voilà. Mais voilà. J'aimerais bien un jour apprendre le japonais, mais je ne sais pas quand ça ira.
Et alors, donc vous mangez peut-être... alors, je vais vous poser la question autrement. Est-ce que vous aimez la tarte au fromage?
Ah, j'adore la cuisine alsacienne.
Ah
j'adore
bon
la tarte au fromage parce que surtout...
Parce qu'il y en a une pâtisserie rue Gaillère, je leur fais de temps en temps de la publicité parce que j'habite juste en face, qui est absolument formidable. Ça, c'est un gag hein, dans notre émission. Mais alors, si je vous dis... Alors, je vous invite à la maison et je vous dis, qu'est-ce que vous voulez manger? Est-ce que vous préférez un borsch avec des betteraves ou un Beckhoff?
Alors, si vous m'invitez chez vous... je vous dirais que vous pouvez faire ce que vous voulez.
Oui.
Parce que je mange de tout et j'adore la cuisine aussi bien alsacienne comme ukrainienne. Donc vous pouvez me faire et du borsch et du Beckhoff. Mais si je vous invite chez moi, eh ben je vous ferai découvrir ma cuisine
moldave.
Moldave. Mais aussi, j'adore cuisiner local. Donc je vous ferai. Du Beckhoff avec une vraie recette de Zuflenheim que j'ai récupérée en achetant justement le plat pour faire le Beckhoff.
Voilà.
Mais aussi, j'ai plein de recettes qui me viennent par la famille de mon mari. Il avait une grand-mère qui cuisinait super bien et voilà.
Donc, d'accord. Et alors, vous aimez toutes les spécialités alsaciennes?
Ah, j'adore. Enfin,
le vin blanc aussi, alsacien et tout.
D'ailleurs, Women for Ukraine, on a édité un vin avec un vigneron alsacien qui s'appelle Monsieur Gözel de Dorlisheim et qui a bien voulu... faire produire son vin avec l'étiquette.
Une magnifique étiquette qui est jaune et bleue.
Tout à fait.
Et qui est, dont les bénéfices vont à votre association de solidarité. Oui, ça c'est...
Voilà, tout à fait.
C'est une belle histoire, ça, oui.
Et nous, en fait, c'est pas vraiment que pour nous. Nous, on transfère les fonds à notre partenaire institutionnel que nous avons en Ukraine, qui est la maison des anciens combattants à Rivne. Et qui ont plein de projets pour soutenir ceux qui ont souffert de la guerre.
Alors, ma dernière question peut-être, quand les Ukrainiennes et les Ukrainiens sont venus en Alsace grâce à votre association notamment de solidarité, ils se sont dit, bon, on va rester 15 jours, 3 semaines et tout. Ça fait 3 ans maintenant.
Oui,
oui.
Voilà. Et... la première chose qu'ils ont vécue, si vous voulez, c'était l'implication et la générosité des Alsaciens, puisqu'ils ne s'attendaient pas vraiment à ça. Enfin, c'est l'histoire commune de toutes les réfugiés, puisque pour la plupart, c'est des femmes avec des enfants. Donc, on n'avait vraiment aucun problème pour les loger, pour trouver...
Tout de suite, les gens ont été
c'était d'une générosité que jamais auparavant ni d'ailleurs après on n'a pas revu. Enfin, c'est quelque chose à mettre vraiment en exergue.
Bon, eh ben écoutez, en tant que bon Alsacien, je vous dis bienvenue. Hein, voilà, c'était l'épisode numéro 114. Toutes les Ukrainiennes sont alsaciennes, Svitlana Spenle, alsacianité rime avec solidarité. Alors, La semaine prochaine, nous resterons en Ukraine avec Maria Sousla, qui était arrivée justement à Strasbourg en février 2022 et en pensant y rester 15 jours avec ses deux enfants et qui attend toujours de pouvoir rentrer en Ukraine. Vous l'avez bien connue sur Radio Judaïka Strasbourg tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi, à la technique Thomas Marinelli et mon nom est Ambroise Perrin. Two fellows meet, like you and I. No connection between